Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est douloureux, mais d'un sujet qui concerne énormément de couples, énormément de futurs parents, énormément de parents, la réduction embryonnaire, qui évidemment est une décision douloureuse à prendre, mais qui par moments s'impose bien sûr aux futurs parents. Ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que ce sont des décisions qui sont prises bien sûr par les couples, mais après de profondes et de mûres réflexions, après de profondes discussions avec les équipes médicales. Évidemment, c'est pas un sujet qui est facile, mais c'est très important d'en parler pour accompagner les couples qui seraient en train de vivre cela en ce moment. Donc nous allons entendre Christelle. Christelle, de grossesse, de réduction embryonnaire, elle va nous raconter tout cela, puis nous serons après avec une gynécologue pour nous aider à comprendre ce qui se joue dans ces moments si particuliers. Docteur Alexandra Le Tourneau, c'est parti.
Bonjour Christelle, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la maman de Bertie qui a 13 ans aujourd'hui, de Juliette et Simon qui ont 10 ans. Ouais. Oui, vous me regardez, vous faites « Ah oui, le temps passe vite ». Vous avez eu recours à la PMA et pendant vos deux grossesses, vous avez dû faire l'expérience très difficile, ultra difficile de la réduction embryonnaire. Merci de venir partager votre histoire avec nous ce matin. On remonte en 2006. Oui. Vous êtes d'accord?
Oui.
Après un an et demi d'essai, malgré des examens d'ailleurs qui révèlent aucune anomalie, votre gynécologue vous oriente vers la PMA. Qu'est-ce qu'elle vous propose à ce moment-là?
Eh bien, elle me propose dans un premier temps, enfin, elle nous explique les tenants et les aboutissants de la PMA après une période d'infertilité, mm-hmm. en nous expliquant que dans un premier temps, c'est une stimulation ovarienne. Et puis, si après une stimulation ovarienne, il ne se passe rien, c'est les FIV, la FIV. Et puis, si la FIV ne fonctionne pas, eh bien, c'est l'adoption.
D'accord. Donc, vous aviez votre programme préétabli.
Oui.
En mars 2008, vous faites votre première stimulation ovarienne. Là, vous nous avez confié en préparant l'émission que c'était un moment difficile. Et ça, c'est peut-être important de le dire aussi pour les téléspectatrices qui sont dans votre cas.
Un moment difficile, oui, parce que je ne pensais pas du tout avoir recours à cette stimulation.
Mais je veux dire, il y a des chamboulements aussi physiques.
Il y a des chamboulements physiques, en effet. Alors, il faut se piquer. Moi, j'ai la phobie des piqûres, donc il fallait que je me pique tous les jours pendant un certain temps. Donc, j'ai oublié un petit peu tout le protocole en fait, des injections. En tout cas, je devais mettre de la pommade anesthésiante pour pouvoir me piquer, pour pouvoir justement stimuler ces ovaires qui fonctionnaient sans bien fonctionner, en fait.
Alors, dans votre malheur, vous avez de la chance parce que vous êtes tombée enceinte seulement au bout d'un mois.
Oui.
Comment est-ce que vous l'avez appris, senti ?
Alors, je l'ai appris devant une absence de règles, en fait. Et comme je travaille en bloc opératoire, j'étais de garde à la maternité cette journée-là. Et donc, ma gynécologue m'a fait faire une prise de sang. Qui s'est révélé hyper positif. Enfin, le taux de bêta-HCG était bien plus élevé que la normale, en tout cas. Voilà. Et donc, elle me proposait de faire une échographie rapidement.
Parce que plus élevé que la normale, généralement, ça sent la grossesse multiple. Hein. Donc, c'est ce qu'elle suspectait. À 6 semaines de grossesse, donc, vous passez une première échographie. Et là, surprise.
Surprise parce que elle voit une première activité cardiaque, puis une deuxième, puis une troisième. Et dans ma tête, c'est tout bizarre parce que je me demande si elle va retrouver encore d'autres activités cardiaques. Mmh. Et parce que elle nous avait prévenu que lors de la stimulation ovarienne, il y avait un risque de grossesse multiple. Et grossesse multiple, pour moi, ça s'arrêtait à 2. Et quand elle m'a dit qu'il y en avait 3, ça a été un petit peu la stupéfaction, en fait.
Et pourtant, vous êtes soignante, puisque vous êtes infirmière anesthésiste. Et ce n'est pas quelque chose que vous aviez envisagé de tomber enceinte de triplé. Pour vous, c'était impossible.
Absolument pas. Dans ma tête, multiple, c'était 2. Ça s'arrêtait à 2.
Alors, il y avait une configuration un petit peu particulière, justement, de ces triplés au niveau des poches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il s'était mis ?
Alors, il y avait un premier embryon qui était tout seul dans sa poche. Mmh. Et puis après, il y a deux autres embryons avec une particularité, c'est-à-dire qu'il y avait un placenta, une monocoriale biamniotique et
D'accord.
deux de cordon, enfin de poche.
Vous pouvez expliquer ce que c'est monochorial biabiotique?
Ben, c'est un placenta qui va faire les échanges entre les deux embryons. Habituellement, c'est un placenta par embryon, et là, c'était un placenta pour les deux embryons. Donc déjà, y avait une petite problématique supplémentaire, parce qu'il y avait des gros risques.
On vous l'a dit tout de suite, ça, qu'il y avait des gros risques?
Pas tout de suite, en fait. La première échographie qu'on a pu faire avec une spécialiste, elle ne pouvait pas répondre à nos questions. Et donc, elle nous a dirigés au CHU à Nantes, où on a rencontré quelqu'un de formidable qui s'appelle Norbert Wiener, pour ne pas le citer, et qui nous a tout expliqué, en fait, et la particularité de cette grossesse-là et de cette grossesse gémellaire-là avec un placenta et deux embryons, où il y avait des gros risques de transfuseurs transfusés.
On va en reparler. Mais comment vous avez annoncé ça au papa? Parce qu'on parlait justement des pères à l'instant. Il n'était pas avec vous au moment de l'échographie.
Il n'était pas avec moi. J'étais de garde et donc je l'ai appelé en disant ben voilà, j'ai passé la première échographie et surprise, il y a trois embryons.
Donc, Comment vous avez pris la décision alors de faire cette réduction embryonnaire? On vous l'a conseillé concrètement?
On ne nous a rien conseillé, en fait. C'est nous qui sommes décisionnaires de faire le choix de faire une réduction.
On vous explique les risques?
Alors, on nous explique l'avantage, parce qu'il y en a un avantage, c'est qu'on peut fonder une famille en une seule fois. Et par contre, les risques, ils sont multiples. Donc, au vu de tous ces risques-là, et puis peut-être parce que du fait que je sois dans le monde médical, on va dire, je savais quel risque ça pouvait engendrer. Et je n'avais pas envie, en fait, de bouleverser ma vie sans savoir ce que ça pouvait être après, en fait, avec ces enfants qui, de toute façon, seraient prématurés, voire même hyper prématurés, et sans savoir comment allait être leur développement après.
Quand on vous a dit effectivement qu'il y avait le syndrome du transfuseur transfusé qui était possible, et on vous a dit que pendant la grossesse, vous risquiez d'avoir des épisodes qui vous forceraient à aller à l'hôpital. Enfin, on vous a quand même décrit une grossesse qui n'allait pas être très sympa, il faut le dire.
Ah, c'était pas une grossesse sereine, non, ça c'est sûr, avec des risques d'hospitalisation. Et c'était sur Paris cette fois-ci pour faire du laser, et c'était toujours dans l'urgence.
Bon, c'est une décision ultra difficile. On va se parler. Comment est-ce que vous en avez parlé avec votre mari? Comment est-ce que vous en avez discuté? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là?
D'emblée, en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas courir le risque d'avoir des enfants dont on...
Il était d'accord avec vous? Vous étiez sur la même longueur d'onde?
Oui, oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pris cette décision?
Beaucoup de tristesse, en fait, et beaucoup de culpabilité, parce que on avait décidé d'avoir des enfants. Et faire ce choix de dire que il y en a deux, parce que là en l'occurrence c'est deux embryons qu'on a dû.
Vous êtes obligé d'enlever ceux qui étaient dans le même placenta, les jumeaux.
En fait, généralement, quand il y a des grossesses triples comme ça, quand chaque embryon est dans un sac, la réduction, elle se fait de 3 vers 2. Sauf que là, vu la particularité de cette grossesse-là, on a fait, en tout cas sur les conseils du docteur Wiener, on a fait la réduction de 3 vers 1, parce qu'il y avait ce risque-là chez les jumeaux, en fait.
Comment s'est passée l'intervention ?
L'intervention en elle-même s'est très bien passée. C'est un geste de courte durée. Techniquement, ça s'est bien passé. Psychologiquement, c'était plus dur, en effet.
Bien sûr. Alors justement, la suite de la grossesse, comment ça s'est déroulé après l'intervention? Parce que vous parliez de la dimension psychologique. Il vous reste un bébé, mais vous avez encore finalement les deux embryons qui sont à côté.
Les deux embryons, ils restent jusqu'à l'accouchement. En fait, ils ne partent qu'au moment de l'expulsion du placenta du premier bébé, enfin du bébé qui reste. Et dans un coin de ma tête, je savais qu'il y en avait toujours trois, un bien vivant et bien en forme, et deux autres qui restaient à côté, en fait.
Et les échographies, justement, de contrôle
Au début, c'était compliqué parce que, et je disais à l'échographiste que je ne souhaitais pas que les images elles soient faites sur ces embryons-là. Et après, le bébé grandissant, on ne le voit plus. Et puis après, je tournais la tête pour ne pas voir, en fait.
En préparant cette émission, vous nous avez dit que vous avez beaucoup parlé à votre fille de son histoire, parce que forcément, c'est quand même particulier.
Oui.
Vous parliez à votre ventre?
Je parlais à mon ventre, en effet. Et puis, quand elle est née, Bertie, je lui en ai parlé aussi, bébé. Et puis plus tard aussi, mes trois enfants maintenant sont au courant de leur histoire, de leur début de vie et de cette histoire-là, de cette particularité-là.
Alors, 18 mois après la naissance de Bertie, vous avez souhaité agrandir la famille.
Oui.
Donc là, vous dites directement, il va falloir recommencer une stimulation ovarienne.
Bah, pas directement, parce qu'en fait, on est parti sur un protocole normal,
classique,
de gens normaux, avec une grossesse qui pouvait se faire normalement. Mmh. Et ce qui n'a pas été le cas, donc on a eu recours de nouveau à la stimulation ovarienne, comme pour, le premier, pour la première grossesse. Et là, rebelote.
Rebelote 3.
Stimulation, premier écho, et là, 3.
Alors, comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'il y en avait encore 3?
Ben, je me dis, c'est pas possible. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Et puis, alors à la fois, c'était surprenant. Et puis, à la fois, je connaissais déjà ce qui s'était passé. Donc, je savais déjà comment on allait...
C'était pas la même configuration. Voilà. Il y avait 3 sacs?
Oui.
D'accord.
Chaque embryon était dans un sac bien différencié. Mmh. Et donc là, la réduction s'est faite de 3 vers 2.
D'accord. Comment vous avez vécu cette seconde réduction embryonnaire?
Ben, un petit peu comme la première. C'est toujours difficile de se dire qu'on va devoir se séparer d'un embryon. Et puis après, c'est de se dire que la grossesse, elle continue et qu'il y aura 2 enfants qui vont arriver. Et pour moi, c'était important et c'était chouette. Après, c'était quelque chose...
Vous diriez que vous avez eu un travail de deuil à faire ou c'est pas à ce point-là?
Ah si, si, il y a un réel travail de deuil à faire. Si, si. Ouais.
Mm-hmm. Vous êtes fait accompagner ou vous l'avez fait toute seule?
Eh bien non, on m'a pas proposé spécialement d'accompagnement et c'est moi qui l'ai fait de par les formations que j'ai faites, notamment en hypnose et l'accompagnement du deuil. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai accompagné ces enfants, ces embryons. Mm-hmm. Et là maintenant, j'arrive à en parler sereinement parce que j'en ai fait le deuil en fait de ces embryons-là.
C'est quand même un long processus.
C'est un long processus, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai fait cette formation-là. Mmh. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans.
Mmh. Ah oui. Oui. Ah oui, donc quand même, ça vous a suivi en filigrane de votre vie pendant un long moment.
Oui, j'en parlais avec beaucoup d'émotions, en fait, jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant, voilà, je peux en parler de façon tout à fait sereine.
Notre experte du jour, c'est le docteur Alexandra Letourneau. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Béclair, à Clamart, hôpital Béclair. Merci d'être avec nous. On va parler donc réduction embryonnaire, enfin en tout cas avec ce qu'il reste de moi et de ma gorge. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas la réduction embryonnaire est envisagée? Parce que là, on a eu 2 grossesses de triplés, mais des configurations différentes.
Oui, en fait, je dirais qu'il y a 3 types de situations. La première, c'est effectivement les grossesses de haut rang, c'est-à-dire des triplés ou plus. Mmh. Où, après une information éclairée, les couples décident de ne pas garder plus de 2 bébés en raison des risques inhérents à ce type de grossesse. La deuxième situation, c'est la situation où le fait qu'il y ait une grossesse de haut rang peut entraîner un problème médical pour la maman et où donc là, il y a une indication à faire cette interruption pour préserver le pronostic vital maternel.
D'accord.
La troisième situation, c'est lorsqu'un des embryons présente une malformation, et où là, on est dans le cadre d'une interruption sélective de grossesse.
Ok.
On a reçu beaucoup de questions pour vous ce matin, dont une question cruciale qu'on s'est tous posée. C'est Véronique qui vous l'a envoyée en vidéo. Regardez.
Bonjour. Je voulais savoir comment étaient choisis les embryons que l'on conservait et les embryons que l'on ne conservait pas. Merci.
Grande question.
Grande question, effectivement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réduction embryonnaire ne peut s'envisager qu'après avoir fait l'échographie morphologique du premier trimestre, puisque si un des embryons présente une malformation, c'est celui-là qui va être arrêté. Si ce n'est pas le cas, si aucun des embryons ne présente de malformation, ce sera en fonction de l'accessibilité et on ira faire le geste le plus facile techniquement parlant.
D'accord.
Pour exposer la patiente au moins de risques possibles.
Juliette vous demande quels sont les principaux risques d'une réduction embryonnaire.
Alors, le principal risque, c'est un risque de fausse couche qui se situe entre 5 et 10% et qui est inhérent au geste. Et ce, quel que soit, enfin, évidemment, plus l'opérateur a l'habitude de ce geste, plus ce risque est limité, mais il persiste un risque de 5 à 10% de fausse couche. Et le second risque, c'est l'impact psychologique du vécu de cette décision et de ce geste par les couples.
Et pour l'opérateur, comme vous le dites, ça doit être stressant.
Alors, pour l'opérateur, effectivement, c'est stressant dans le sens où on est conscient du geste que l'on fait et on est conscient des risques qui sont inhérents à ce geste. Mais néanmoins, à partir du moment où la décision est prise en concertation, enfin que ce sont les couples qui ont pris la décision après l'information.
Ils connaissent les risques.
Voilà, ouais. Exactement.
Ils connaissent les risques, mais cependant, ça doit quand même être difficile parfois à gérer. Est-ce qu'ils sont accompagnés psychologiquement ?
On leur propose systématiquement un accompagnement psychologique. Certains couples le demandent, d'autres ne le souhaitent pas et on respecte leur choix.
D'accord. Alors pour rester dans la psychologie, Carole vous demande, celui qui reste, peut-il ressentir un manque dans le ventre de la maman quand ils étaient plusieurs et qu'ils se retrouvent seuls ?
Alors ça, on n'a pas vraiment de données sur la question, il n'y a pas eu d'études menées là-dessus et je pense que ça dépend peut-être aussi beaucoup, enfin un des gros biais, c'est que ça va dépendre du vécu aussi des couples de la réduction embryonnaire et de ce qu'ils vont transmettre à leur enfant.
D'accord.
Kaina vous demande, on a vu que Christelle a enchaîné deux grossesses multiples et deux réductions embryonnaires, est-ce courant ?
Alors, courant non, on ne va pas se mentir, mais on en voit de temps en temps. Il y a deux types de situations. Soit c'est une grossesse obtenue naturellement, et on sait que le fait d'avoir eu une grossesse de haut rang expose à la possibilité d'avoir à nouveau une grossesse de haut rang ultérieurement. Et puis, avec le recours à la PMA, la procréation médicalement assistée, là, effectivement, on a une augmentation de la possibilité d'avoir une grossesse de haut rang.
Vous parlez tout à l'heure de discussions éclairées.
Oui.
Concrètement, comment ça se passe ? Vous vous réunissez avec plusieurs personnes, il y a aussi un psychologue, il y a le médecin.
Oui, alors en fait, concrètement, on va voir les patients, les couples. Déjà, il faut voir le couple et pas seulement la patiente. On va les voir une première fois à 9 semaines d'aménorrhée, environ, pour faire une première échographie, déterminer justement combien il y a d'embryons, de poche et de placenta. Voilà. Et discuter avec eux des bénéfices et des risques de la technique. Pourquoi on leur propose ça ? Pourquoi c'est possible de faire ça et quels sont les bénéfices de la réduction embryonnaire. Et ensuite, on les revoit entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée pour faire l'échographie morphologique. Et à ce moment-là, ça leur a permis de réfléchir entre-temps. Et ça a permis aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'embryons qui s'arrêtent spontanément. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir cette possibilité-là entre deux.
Alors, Vincent vous demande d'ailleurs, pouvez-vous me dire à quel stade de la grossesse on procède à une réduction embryonnaire ? Donc, c'est vraiment à quel stade que le geste est fait ?
Oui, le geste, il est fait entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, après la première échographie morphologique et idéalement après le dépistage de la trisomie 21, si le couple le demande.
D'accord, ok. Voilà. C'est à ce moment-là seulement ?
Oui, parce qu'ensuite, si on faisait ça, on augmente le risque de fausse couche.
D'accord.
Si vous avez un couple qui a 4 embryons qui vous dit non, nous, on veut les garder ?
Eh bien, évidemment, c'est leur droit.
Oui. Mais si vous, d'un point de vue médical, vous êtes...
La décision finale revient toujours au couple. C'est à nous de les informer des risques. Évidemment, de prendre en compte aussi les antécédents maternels, qu'ils soient obstétricaux ou médicaux, parce qu'il y a quand même des fois où ça peut être très risqué pour la maman. Mais si à l'issue de cette décision, de cette discussion, le couple souhaite poursuivre la grossesse, on les suit et on leur donnera le plus de temps et
d'accompagnement possible. Ça arrive, ça ? Vous ne réussissez pas à leur faire comprendre que les risques sont très importants.
Notre but, ce n'est pas de leur réussir à leur faire comprendre, c'est de leur expliquer, mais ensuite, la décision leur revient.
Ouais, ce n'est pas comme dans Dr House, où je sais qu'ils réussissaient très
longtemps. N'importe quoi, il y a pas ça dans Dr House déjà.
Si, ils réussissaient à les faire changer d'avis des fois, non ?
Pas du tout.
Docteur.
Bah non, mais pas du tout. Dans Dr House, ce n'est pas du tout le concept de Dr House, c'est des diagnostics.
Je me souviens plus
enchaînés,
trop.
Ouais, c'est ça.
Je me souviens plus trop.
Est-ce que le suivi de la grossesse, du coup, il va être différent ?
Alors, le suivi de la grossesse après une réduction embryonnaire, il va être différent du suivi d'une grossesse où il n'y aurait eu qu'un seul embryon de base.
D'accord.
Mais après, ça va vraiment dépendre du nombre d'embryons vivants qui restent. Et ensuite, s'il y a deux embryons vivants, bah, le suivi va être celui d'une grossesse gémellaire. Il va être en fonction du nombre de placenta et de poches que se partagent les fœtus.
Et on y va avec cette question de Yasmine qui vous demande... cette question de Grégoire, pardon, qui vous demande...
C'est Yasmine l'obsède.
Non, c'est juste qu'il y a écrit Yasmine, deux points, question de Grégoire. Donc c'est à Yasmine de la poser. Bref, Grégoire vous demande, après la réduction embryonnaire, quel est le suivi de la maman ?
Alors en fait, tout va dépendre du nombre d'embryons qui vont rester vivants. La plupart du temps, il s'agira de deux fœtus dans deux poches avec deux placentas. Et à ce moment-là, le suivi échographique sera un suivi échographique mensuel. Et il y aura en plus une consultation tous les mois, comme pour toute grossesse. Il faut quand même souligner qu'après le geste, on revoit la patiente à 7 jours pour faire une échographie, pour vérifier que tout va bien.
Okay. Dorothée vous demande concrètement comment se déroule l'intervention.
Alors, ça dépend un petit peu des endroits. Là où je travaille, ça se déroule sur une hospitalisation d'une journée. La patiente arrive le matin, on fait l'échographie du premier trimestre. on vérifie qu'aucun des embryons n'est porteur de malformation et on voit comment on va faire le geste technique. La patiente est installée dans une salle qui est comme un bloc opératoire pour respecter les règles d'asepsie. On va mettre de l'antiseptique sur la peau, faire une anesthésie locale et ensuite procéder à l'injection qui va arrêter
l'embryon.
C'est une seringue avec, une aiguille, oui.
D'accord.
Et on utilise un produit qui est souvent du chlorure de potassium pour l'injecter et ça va arrêter le cœur de l'embryon et c'est contrôlé par échographie. La patiente ensuite retourne dans sa chambre pour 2 heures. Au bout de 2 heures, on fait une échographie pour vérifier que les embryons vivants vont bien. Et ensuite, la patiente rentre chez elle avec un arrêt de travail de 7 jours et on la revoit pour une échographie de contrôle au bout de 7 jours.
Est-ce que le coparent peut être là ?
Alors, ça dépend des équipes. C'est vrai que comme c'est une salle qui est comme un bloc opératoire, on essaie de limiter le nombre d'intervenants pour des raisons d'asepsie. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour la patiente, on peut faire des entorses et à ce moment-là, on va habiller le coparent de façon...
Quand vous dites habiller, c'est...
voilà, Charlotte, casaque, surchaussure,
c'est
masque.
Sexy. Dans quel cas peut-on laisser plusieurs embryons se développer, vous demande Laure ?
Eh bien, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication médicale formelle à une grossesse de haut rang, si le couple fait le choix de poursuivre une grossesse avec de multiples embryons, on va les suivre. C'est leur choix et leur décision.
Mais de toute façon, à partir du moment où on a une grossesse de triplé, vous allez quand même leur proposer cette option-là.
En tout cas, on va les informer que ça existe et leur expliquer quels sont les risques de la technique et pourquoi on peut proposer cette technique. Mais la décision finale, dans tous les cas, leur revient bien évidemment.
Pardon, dans le système des parce qu'on a parlé tout à l'heure du transfuseur transfusé,
oui.
Là, il n'y a pas de réduction embryonnaire possible.
Non. En fait, étant donné qu'ils partagent le même placenta,
c'est trop dangereux.
Voilà, c'est pas possible d'arrêter un des embryons. Donc, quand il y a une grossesse triple avec effectivement une grossesse où il y a 2 embryons qui partagent le même placenta, on est la plupart du temps amené à arrêter ces 2 embryons-là parce qu'il y a trop de risques à poursuivre.
Maxime vous demande quelle est la surveillance recommandée pendant une grossesse multiple et pourquoi est-ce un suivi plus rapproché qu'une grossesse simple ?
Alors, dans le cas d'une grossesse multiple, il y a des risques de complications à la fois fœtales et maternelles qui sont augmentés. Au niveau des complications fœtales, le principal risque, c'est le risque de prématurité. Et le risque de prématurité augmente avec le nombre d'embryons du fait de la surdistension utérine. Du côté maternel, une grossesse multiple, ça augmente le risque de prééclampsie, de diabète gestationnel, de cholestase gravidique. Et puis pour l'accouchement, on a une augmentation du taux de naissance par césarienne et une augmentation du risque d'hémorragie de la délivrance. Et puis ensuite...
Là, comme ça, ça fait beaucoup de risques.
Ça fait beaucoup de risques. Maintenant, il faut bien se dire que c'est proportionnel au nombre d'embryons. Une grossesse gémellaire où il y a 2 embryons est quand même beaucoup moins risquée qu'une grossesse quadruple.
D'accord. Voilà.
Donc, il ne faut pas alerter, affoler toutes les patientes qui attendent des jumeaux. Dans la majorité des cas, tout se passe très bien avec une surveillance adaptée. Mais c'est en raison de tous ces risques-là qu'on les surveille de plus près.
Isabelle vous dit, au niveau des symptômes de grossesse, est-ce qu'attendre 2 bébés équivaut à 2 fois plus de nausées, 2 fois plus de reflux, 2 fois plus de mal de dos ou pas forcément ?
Alors, bien sûr, toutes les femmes ne sont pas égales face aux petits maux de grossesse. Ce qui est sûr, c'est que physiologiquement parlant, quand il y a plusieurs embryons, il y a plus d'hormones de grossesse. Et donc, il y a très souvent une augmentation des nausées qui sont plus fréquentes et qui sont plus intenses au premier trimestre. Et après, mécaniquement, du fait de la surdistension utérine et du fait qu'il y a plusieurs bébés, donc plus de poids à porter,
il y a plus
de mal de dos, il y a plus de reflux parce que l'estomac est plus comprimé. Donc oui, globalement quand même, c'est un peu moins...
Ce sont des futures mamans qui sont arrêtées plus tôt ?
Oui.
Alors
déjà, le congé maternité en lui-même débute plus tôt pour une grossesse gémellaire et il se termine plus tard. Et très souvent, alors il n'y a pas de terme seuil à partir duquel on dit tout le monde à la maison, mais ça va dépendre de l'évolution de la grossesse. Est-ce qu'il y a une menace d'accouchement prématuré ou pas ? Est-ce que le col s'est modifié ? Si tout est complètement stable, que la patiente va très bien, elle peut aller jusqu'à son congé maternité. S'il y a la moindre alerte, on l'arrêtera beaucoup plus précocement.
Vous avez parlé des césariennes. Marina vous demande si le taux de césarienne est plus élevé pour les naissances de jumeaux et comment ça s'explique et comment on décide de faire une césarienne, pourquoi ?
Alors oui, effectivement, le taux de naissance par césarienne est plus élevé en cas de grossesse gémellaire. Ça s'explique par le fait qu'il y a 2 bébés et que ça change pas mal la donne pour le suivi du travail et pour l'accouchement. En fait, on va décider de la voie d'accouchement en concertation avec la patiente et là encore, comme d'habitude en médecine, c'est une évaluation bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le poids des bébés, les antécédents médicaux et obstétricaux de la patiente, la position des bébés. Est-ce qu'il y a une grosse différence de poids entre les bébés? Et puis, l'évaluation, si on arrive proche du terme de la grossesse, des dimensions du bassin de la maman. Ça peut se faire par un scanner du bassin proche du terme, ou bien si la maman a déjà accouché de bébé avec un poids strictement normal, on estime que son bassin a fait la preuve de sa normalité. Et donc, en plus de ça, au cours du travail, il n'y a pas un, mais deux bébés à surveiller, et donc il se peut qu'un des deux bébés supporte très bien le travail et l'autre non, et à ce moment-là, on pourra être amené à faire une césarienne pour ça. Donc c'est pour toutes ces raisons que la voie d'accouchement, elle doit être discutée en amont avec la patiente, mais je dirais même avec le couple, et en concertation avec l'obstétricien.
Que devient l'embryon une fois qu'on a fait la réduction ?
Il reste dans l'utérus de la maman, mais petit à petit, il va en fait disparaître. On va ne plus le voir au fur et à mesure des échographies.
Et après, à l'accouchement, il va être expulsé ?
Il va être expulsé en même temps que le placenta et les membranes. Alors parfois, on peut voir une petite cicatrice, mais la plupart du temps, on ne voit quasiment rien quand ça a été fait très précocement.
Pauline vous demande si des grossesses de triplé ou de quadruplé peuvent survenir naturellement sans stimulation ovarienne.
Oui, ce n'est pas le plus fréquent, mais il y a des familles qui ont une prédisposition à avoir des grossesses de haut rang. Maintenant, on ne va pas se mentir. Alors déjà, l'âge maternel augmente le risque d'avoir des grossesses multiples, mais le recours à la procréation médicalement assistée est aussi un facteur de risque. Et c'est pour ça que les centres qui font les FIV font de plus en plus attention à ça et essaient d'éviter de transférer trois embryons, par exemple.
Ouais. Mais vous parlez de famille, c'est-à-dire ?
Mais il y a des familles où on voit qu'il y a des familles à jumeaux, par exemple.
Alors, jumeaux, je savais, mais triplé, quoi,
ça peut arriver, c'est pas fréquent. Hein. De toute façon, ça reste des grossesses rares. De façon naturelle, ça reste des grossesses rares.
Lauriane est à 7 mois de grossesse gemellaire, chacun dans leur poche. On m'a expliqué qu'ils peuvent être des vrais ou faux jumeaux. Comment est-ce possible alors qu'il y a deux poches ?
Eh ouais, alors le nombre de poches ne conditionne pas le fait d'être des vrais ou des faux jumeaux. En fait, les vrais jumeaux, ce sont les jumeaux dits monozygotes. Ça veut dire qu'il y a un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et l'œuf issu de cette fécondation s'est divisé. Quand ils se divisent précocement, dans 30% des cas, donc avant 3 jours, on va avoir deux embryons qui ont chacun leur poche et chacun leur placenta. C'est une grossesse gemellaire bicoriale biamniotique. Quand la division va se faire un petit peu plus tardivement, entre le 3e et le 7e jour, ça c'est à peu près 70% des cas, on va avoir deux embryons qui ont chacun leur poche, mais un seul placenta. C'est une grossesse gemellaire monocoriale biamniotique. Et puis il y a la rareté où les embryons sont tous les deux dans la même poche et n'ont qu'un seul placenta, ça c'est la monocoriale monoamniotique. Mais dans...
Ah ça c'est plus rare.
Ça c'est beaucoup plus rare, c'est moins de 1%. Et dans 75% des cas, en fait, la grossesse gemellaire est issue de deux ovules qui ont été chacun fécondés par un spermatozoïde différent. Et là, on va avoir deux embryons avec chacun leur poche et chacun leur placenta et c'est une grossesse gemellaire bicoriale biamniotique. Mais donc on voit qu'au final, on peut être des vrais jumeaux, donc des jumeaux monozygotes, mais avoir chacun sa poche et chacun son placenta.
Voilà, on remercie beaucoup le docteur Alexandra Letourneau, qui est donc gynécologue obstétricienne à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et puis, on remercie évidemment Christelle, qui a accepté de venir nous raconter et raconter à Agathe Le Caron son histoire. Voilà, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Et puis vous dire aussi, vous le savez, il y a des inédits du podcast des maternelles. Le dernier inédit, c'était sur le thème « Comment donner le goût de la lecture à vos enfants ?» Une heure de discussion, plusieurs invités, de nombreux témoignages sur le sujet. Le thème d'avant, c'était « Les parents d'aujourd'hui se mettent-ils trop la pression ?» Là aussi, une heure. Donc si vous vous sentez concerné, ou si autour de vous, des jeunes parents se sentent concernés, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de ces épisodes inédits. Il y avait également un thème sur qu'est-ce qu'être papa en 2022. La nouvelle place, les nouvelles responsabilités, les pères d'aujourd'hui. Ouh là là, voilà. N'hésitez pas à partager ces épisodes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez.